vous voulez.
5-6.
Il n'y en a pas de problème partout.
Boulevard 102, c'est Marceau le matin, le point de Max. On en jase le midi et Gravel dans le retour. Sans oublier les rendez-vous incontournables.
Keep on rolling, baby!
Le pit stop avec Denis Gravel, 7h45. L'open mic d'Audrey Pinchot, 11h. Caucus avec Antonin Iaccarini à midi. Boulevard 102.1, maintenant 100% parlé en semaine. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Encore un excellent lundi soir à passer avec Maître Marc Bellemare de bellemareavocat.ca, ex-ministre de la Justice. Bonjour, Monsieur Bellemare.
Comment vas-tu, mon cher Yannick?
Ça va beaucoup mieux que les libéraux ces temps-ci, les libéraux provinciaux, où la semaine dernière, avec un Pablo Rodriguez, on a assisté à une conférence de presse qui, honnêtement, je pensais jamais assister à une conférence de presse du genre où un chef de parti ressemble un peu à un chevreuil qui est sur une patinoire, incapable de faire un pas sans trébucher. C'est une catastrophe ce qui s'est passé la semaine dernière, Maître Bellemare.
J'entends des chroniqueurs, des savants chroniqueurs un peu partout depuis une semaine qui disent que c'est pas sûr que ça va avoir un effet sur les votes et sur l'achalandage libéral, si on peut l'appeler comme ça. Je ne comprends pas comment on peut raisonnablement penser que ça n'a pas d'impact. On a juste à regarder, ce genre d'affaires-là a un impact. Même, la campagne électorale municipale de Québec avec Sam Hamad, puis c'est... Ces problèmes numériques puis ces petites vidéos qui ne marchent pas, c'est quand même assez technique. C'était pas sur des questions de fond, ça a eu un effet dévastateur. Les gens sont exigeants face aux politiciens. Ils veulent avoir la perfection. Et là, ce qui se passe du côté libéral, Yannick, là, c'est comme si, je ne sais pas, là, prends le chef et la meilleure personne de son parti. Imaginez que ça arrivait avec la CAQ, là, par exemple. Le même problème, le même conflit entre François Legault et Simon Jolin-Barrette. Tu peux t'imaginer, demain matin, Jolin-Barrette congédie son chef de cabinet, qui est un ami intime de François Legault, la chicane pogne, et puis Legault expulse Jolin-Barrette du caucus. Imagine-toi du côté du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui se chicane avec, Pascal Bérubé, qui est probablement son député le plus...
populaire.
Un, le plus ancien, deux, qui a le plus de profondeur, dont l'allégeance est sans faille. On a vu ça avec Trudeau puis Mme Freeman, là, qui était ministre des Finances à l'époque. C'est les deux personnes les plus importantes du Parti libéral, le chef nouvellement élu du parti par les membres, avec sa principale députée, Marois Risky, qui est, je pense, une des meilleures parlementaires de l'Assemblée nationale, une femme de qualité exceptionnelle, avocate, mère de famille, une femme agréable, qui a du chien, qui est probablement la principale valeur libérale qui vient de se chicaner avec Pablo Rodriguez. Moi, je pense que c'est là un écoute, c'est...
Maître Bellemare, ça a coupé un petit peu en raison du Zoom qui nous fait des mauvais coups ce soir. Mais vous étiez rendu au moment où, bon, on parlait de Marois Risky, là.
Oui, Marois Risky, qui est la valeur sûre du Parti libéral, évidemment, une des meilleures parlementaires, qui a du chien, qui fait des bonnes entrevues, qui est présente partout dans les médias, une mère de famille, dont le conjoint, d'ailleurs, est député libéral aussi. Alors, je me demande comment, honnêtement, les libéraux vont pouvoir se remettre sur les rails avec ça. Et c'est... le dommage est fait. M. Rodriguez nous a montré qu'il n'était pas capable de tenir un point de presse correctement. Il n'est pas capable de gérer une crise. Donc, et puis il veut diriger le Québec. Alors, c'est vraiment une catastrophe et c'est vraiment pour M. Legault et pour le PQ La meilleure nouvelle qu'ils pouvaient attendre, c'est un cadeau du ciel pour les oppositions et le gouvernement en place.
Ouais, ce qui est encore plus hallucinant, Maître Bellemare, c'est le fait que c'est légal ou bon, est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est moral ou avec un manque d'éthique? Mais ce serait légal, selon le directeur général des élections, de payer pour avoir un vote pour un chef de parti. Ce ne serait pas en période d'élection, bien entendu, pour acheter un vote pour un parti en particulier, mais ce serait légal, la façon dont ça s'est fait. Bon, la CAQ a dit qu'elle allait se pencher là-dessus et avec raison, là. Mais d'où vient le fameux 100$ qui était donné pour voter pour Pablo Rodriguez? Parce que veut, veut pas, ça prend un 100$, un brownie, là, ça prend de l'argent cash. Qui était derrière cet argent cash-là pour mettre en place Pablo Rodriguez plutôt qu'un Charles Milliard?
Je ne sais pas, puis on n'a pas de preuve de ça pour l'instant. On ne sait même pas si un brownie, c'est vraiment un 100$ ou si ce n'est pas d'autre chose. On ne sait pas qui a pu retirer cet argent-là, qui a pu la donner. On ne sait même pas si ça a vraiment été fait. On a comme seule base des courriels non identifiés, non authentifiés qui ont été publiés par le Journal de Montréal, le Journal de Québec, la semaine dernière. On n'a vraiment pas grand-chose, puis on a un. Plutôt que d'attendre de voir ce qui va se passer, puis qu'est-ce qui a vraiment été fait et pas fait, Pablo Rodriguez s'en va dans les médias pour s'excuser, puis pour dire qu'il n'y a rien à cacher, alors qu'il ne sait même pas qu'est-ce qu'on y reproche précisément. La seule chose qu'on sait, dont on a la certitude, c'est que la chef de cabinet de Marois Risky a été congédiée pour des raisons dont on n'a pas le fin détail pour l'instant. Elle a été congédiée pour, semble-t-il, faute grave. On ne sait pas non plus s'il y a un lien quelconque entre ce congédiement-là et les fameux brownies, dont on ne connaît pas le détail intime. Alors, c'est vraiment n'importe quoi, mais dans cette brume-là, dans cette incertitude-là, on sait qu'il y a deux ténors du Parti libéral du Québec qui se chicanent, qui ne se parlent plus, qui ont eu l'air de deux enfants d'école dans une cour d'école où il y en a un qui a volé le suçon de l'autre, là. Ça fait très enfantin, ça fait très immature et ça surprend beaucoup de la part de ces deux personnes-là.
Qui vivra verra. Est-ce que dans la province de Québec, c'est la CAQ qui va bénéficier de la crise au PQ? Est-ce que c'est le Parti conservateur d'Éric Duhaime? Puis je m'explique pour cela parce que j'imagine que les gens qui veulent que leur argent soit minutieusement utilisé de façon efficace, c'est plus des gens de la droite économique. Donc le parti d'Éric Duhaime est de la droite économique. Le Parti libéral en était un. On l'a souvent perçu comme ça, de bons gestionnaires de l'argent public. Donc, est-ce que le Parti conservateur du Québec pourrait bénéficier de la débâcle du Parti libéral? Ça pourrait pas être le Parti québécois, Maître Bellemare. Ça aurait comme pas de sens. Hein?
Moi, je pense pas que le PQ, qui est un adversaire traditionnel des libéraux provinciaux, et ça depuis quasiment 100 ans, je pense pas que ça profite au PQ, effectivement. Est-ce que ça peut profiter aux conservateurs d'Éric Duhaime? J'en doute aussi parce que le PQ est fermement centralisé à Montréal. C'est un parti très montréalais, très multiethnique. Alors que les conservateurs sont plutôt concentrés dans la région de Québec, la Beauce, la rive sud, la région de Québec. Alors, leur vote est principalement là-bas. Je doute que ça puisse transiter, quoique au niveau des principes, les libéraux, c'est un parti de business, c'est un parti d'affaires, c'est un parti corporatiste, c'est un parti axé beaucoup sur l'économie, les conservateurs aussi. Mais alors, je doute que ça puisse profiter. Je pense que ça peut peut-être profiter plus à Québec solidaire, personnellement, dans la région de Montréal, qui est très axée sur le multiethnique et qui est très montréalais. Donc, les libéraux plus à gauche pourraient être portés à faire confiance à Sol Zanetti et à la co-chef des
Rue
Solidaires.
Bagazal.
Oui, comme il y en a beaucoup aussi qui auraient pu quitter la CAQ au profit des libéraux avec Pablo Rodriguez qui vont finalement retourner à la CAQ. Il faut comprendre que la CAQ récemment a eu de bonnes nouvelles sur le plan économique. On sent très bien que M. Legault se rapproche de Mark Carney, le premier ministre du Canada. C'est sûr que M. Legault a un flirt ouvert avec M. Carney en essayant d'amener au Québec des investissements importants, surtout dans le domaine portuaire, dans le domaine militaire. Ça pourrait profiter. Moi, je trouve que M. Legault, depuis un mois, a fait de bonnes annonces sur le plan économique. Il essaie de se camper comme étant le capitaine d'économie pour le Québec, des bonnes jobs payantes. Je comprends qu'il y a eu des déboires avec la filière batterie et tout ça, mais il essaie de se reprendre en arrivant avec capitaine d'économie. Et puis, ça se pourrait que les libéraux déçus se retournent à la CAQ, mais là, les erreurs qui sont faites par les libéraux provinciaux, la chicane de haut niveau va avoir un impact certainement sur le caucus. On sait que ce chef-là, M. Rodriguez, vient d'être élu, ça fait pas longtemps. Et dans toutes les campagnes à chefferie, il y a des dissensions. M. Milliard avait obtenu beaucoup de votes, beaucoup d'appui de la part de certains députés, certains membres de son caucus. Donc, son leadership est certainement fragilisé. Puis les libéraux, c'est un parti politique. Les libéraux provinciaux, c'est un parti politique qui veut être élu. Ce qu'ils veulent, c'est gouverner le Québec. Ils veulent gagner des élections. Et s'ils s'aperçoivent que Pablo Rodriguez n'est pas l'homme qui va les mener au pouvoir, ou très certainement au moins à l'opposition officielle à la prochaine élection de l'automne 2026, ben, il va avoir beaucoup de misère à rallier ses militants, puis il va perdre des votes. Alors, ça s'annonce pas très bien pour le tournant de l'année pour la gang de M. Rodriguez.
Oui, d'ailleurs, c'est mercredi quand. En fait, c'est mardi que tout ça est sorti. Et mercredi matin, j'ai texté Charles Milliard pour avoir son opinion. Charles Milliard qui a un peu refait sa vie avec un nouvel emploi maintenant. Il m'a répondu dans la journée même en me disant: Salut, je vous réponds par toute amitié. Je suis enseveli de demandes pour le moment. Je reste factuel et je pense surtout au Parti libéral. Je n'accorderai pas d'entrevue pour ce qui est des prochaines heures. Et à chaque jour, je lui fais une demande d'entrevue et il veut pas parler. Pour quelle raison Charles Milliard ne parlerait pas, hein?
Ben, c'est parce qu'il veut pas avoir de l'air de profiter des malheurs de son parti. Il faut comprendre que quand tu es un libéral, tu es un homme d'équipe, si tu commences à tirer dans la chaloupe, déjà que Marois a tiré dans la chaloupe, si lui tire dans la chaloupe aussi, les commentaires pourraient être mal interprétés. Je pense que la bonne ligne pour lui, c'est de pas parler puis d'attendre qu'il y ait des explications de la part des principaux intéressés et de voir, parce qu'il y en a trois, hein, il y a le chef de cabinet, il y a la députée, puis il y a le chef du parti. Donc, c'est un peu ce triangle-là qui doit se parler, qui doit trouver des solutions. Puis là, il faut une sortie de crise rapide et efficace. Est-ce que ça passe par des excuses d'un ou de l'autre? Est-ce que ça passe par une explication, parce que là, il y a un congédiement là-dedans qui va faire l'objet, bien sûr, de contestations au tribunal administratif du travail, congédiement illégal ou injustifié de la part de Mme Hintz, la chef de cabinet de Mme Rizky. Alors, il va y avoir très certainement des suites à ça, et il y a un phénomène judiciaire qui vient se greffer à ça, parce qu'il y a des avocats un peu partout. La députée sort avec un avocat. Madame Hintz envoie une mise en demeure. Donc là, il y a comme des avocats qui vont jouer là-dedans, qui vont amener une dimension non pas politique, mais judiciaire, avec des suites à donner à ça, possiblement éventuellement un procès devant le tribunal administratif du travail pour savoir si le congédiement de Madame Hintz est justifié ou pas. À travers ce procès-là, il y aurait des témoignages, bien sûr, et c'est des procès qui sont publics, alors qui pourraient amener les journalistes à avoir des éléments croustillants expliquant le congédiement de Mme Hintz, qui est une proche de Pablo Rodriguez et qui est la chef de cabinet de la députée. Alors, écoute, c'est comme on vient d'ouvrir une porte de garage là, avec beaucoup d'éléments croustillants pour les médias. Ils vont avoir bien du fun au cours des prochains mois, assurément.
Je pensais que c'était réglé, les histoires de magouillage dans le monde de la politique, surtout au Québec, avec tout ce qu'on a connu dans les dernières années, incluant du temps où vous étiez ministre de la Justice. Vous avez quitté justement parce que ça n'avait pas de maudit bon sens. Je pensais que c'était terminé, mais visiblement, les libéraux n'ont pas appris de leurs erreurs, là.
Non, c'est ça. Puis il faut comprendre que tout ça survient au sein d'un parti qui essaie de se faire une certaine virginité, une certaine probité. On parle du Parti libéral. Cette situation-là serait survenue chez Québec solidaire. On en aurait fait moins de cas. On n'aurait pas pu référer à des événements douloureux des 10, 15 dernières années où il y a eu des parfums de corruption. des parfums de favoritisme, d'argent sale qui se promène, etc. On n'aurait pas ça à Québec solidaire. On n'aurait pas ça non plus au Parti québécois, je pense bien. Mais là, on a ça avec un parti politique qui a vécu coup sur coup la commission Bastarache en 2010, la commission Charbonneau quelques années plus tard, où au cœur de ces litiges-là, il y avait du trafic d'influence, des petits amis qui se payaient des nominations et des contrats. Et ça a vraiment eu un impact bœuf sur la crédibilité du gouvernement Charest, par la suite du gouvernement Couillard. Ils s'en sont jamais relevés vraiment. Et là, Rodriguez arrivait d'Ottawa pour nous dire, ben moi, je suis monsieur net, puis dans mon parti, il n'y aura pas ce genre d'affaires-là. Puis là, il arrive ça qui sonne un peu, si tu veux, dans le même format politique que les antécédents. Donc, c'est impossible d'analyser la situation avec une espèce de parfum de favoritisme puis d'argent sale qui se serait promené pour obtenir des votes à campagne et à chefferie, sans avoir à l'esprit les antécédents libéraux, politiques libéraux provinciaux, là, je dirais depuis 15-20 ans. Et ça vient comme aggraver une condition là, qui était devenue plutôt asymptomatique depuis quelques années. C'est sûr que quand tu n'es pas au pouvoir, tu es moins sur le spot, mais là, ça revient, puis il va devoir expliquer en quoi sa présence à lui n'est pas qu'une illusion finalement sur un parti qui a gardé ses mauvaises habitudes de copinage et de corruption.
Avez-vous eu des demandes d'entrevue un peu la semaine dernière, Maître Bellemare?
Beaucoup, beaucoup. J'en ai eu beaucoup. On me demandait mon avis, puis j'ai refusé. Mais là, je te parle parce que je sais que tous les lundis soirs, on s'en parle, puis ça me permet de revenir sur cet événement-là, que je dirais qui est probablement l'événement bœuf de l'actualité actuellement, et ça depuis une semaine. Mais oui, j'ai refusé beaucoup d'entrevues parce que je voulais pas avoir de l'air d'un gars qui était bien content de la situation. Je voulais plutôt. Ça fait quand même 21 ans que j'ai quitté ce parti-là, hein. Je suis parti en 2004. J'ai démissionné en avril 2004. On est rendu en 2025, mais ça ne veut pas dire que j'ai pas eu, bien sûr, la commission Bastarache où j'avais expliqué en quoi il y avait des influences des collecteurs de fonds qui avaient obtenu des nominations de juges au sein de la Cour du Québec. J'ai témoigné pendant 5 jours pour expliquer ça. J'ai jamais changé d'idée. Et suite à mon témoignage, le commissaire Bastarache, qui était devenu commissaire de la commission d'enquête à l'époque, avait recommandé une quarantaine de changements au processus de nomination parce qu'il avait estimé qu'il y avait beaucoup de possibilités d'infiltration et d'influence indues au sein du processus de nomination. Ça a changé aujourd'hui, heureusement, mais il reste que c'était des procédures libérales. Et on se souvient à l'époque, Chantal Landry, qui était au cabinet de M. Charest, avait témoigné pour dire qu'il y avait des post-it qui étaient accolés au CV des avocats libéraux qui souhaitaient être nommés juges. Alors, il y avait tout un processus politique qui était appliqué pour le processus de nomination. Alors, tout ça nous revient à l'esprit aujourd'hui. Et c'est clair que c'est ce même parti-là tout le temps qui a toujours les casseroles qui font cling-cling en arrière, là. Casseroles de la probité politique et un petit parfum d'influence, de copinage et de corruption qui revient, qui est pas précisément prouvé, mais c'est l'odeur, hein? C'est la fumée. Alors, où est le feu, on ne sait pas, mais il y a comme une fumée qui est désagréable, puis en politique, c'est extrêmement dommageable.
Exact. J'ai toujours aimé la politique. Bon, parler de politique, j'aime ça. J'ai toujours aimé les séries politiques. Il y a une série qui virait aux États-Unis que j'ai dévorée, West Wing. Je ne sais pas si vous avez écouté cette série-là, mais c'était exceptionnel. Il y a des séries qui touchent la politique un peu plus. C'est un peu plus hollywoodien, mais House of Cards, c'est franchement intéressant. Toute la machination en politique, toute la façon de procéder, la façon de passer les messages, ça m'a toujours grandement intéressé. Survivant désigné aussi, qui est une bonne série, j'avais adoré. Mais dans toutes ces séries-là, ce que je me rends compte, c'est que les chefs de parti ainsi que les politiciens, bon, si on parle de gouverneurs ou autres aux États-Unis, là, des membres du Sénat et tout ça, vous êtes extrêmement encadrés. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a enlevé la laisse à Pablo Rodriguez? On lui a dit, ben garde, embarque sur la glace avec tes sabots, là, ça se peut que tu dérapes, mais essaie de faire ton possible, mon champion. On l'a donc bien échappé au niveau des communications, Maître Bellemare. Du temps où vous étiez ministre de la Justice, j'imagine que vous étiez extrêmement encadré aussi.
Oui, oui, il y a un encadrement, effectivement, mais les situations de crise sont plus difficiles à gérer. Une crise, par définition, c'est quelque chose d'imprévisible. C'est quelque chose qu'on ne voit pas venir. Et là, écoute, un congédiement, est-ce que Rodriguez est allé un peu trop vite en excluant sa députée vedette du caucus parce qu'elle devient députée indépendante? C'est pas parce qu'elle est exclue du Parti libéral, de la députation libérale, qu'elle peut pas siéger à l'Assemblée nationale. Elle peut siéger quand même, elle représente quand même son comté. Je pense que c'est le comté de Saint-Laurent à Montréal, qui est un comté multiethnique, important au Québec, et un comté sûr pour les libéraux en plus. Alors, est-ce qu'il est allé trop vite, M. Rodriguez? Peut-être. Il aurait peut-être pu attendre quelques jours. Là, il a agi vraiment de façon impulsive. Et ben Pablo Rodriguez, c'est un ancien ministre libéral du gouvernement Trudeau. C'est un gars qui a agi à Ottawa, puis c'est un gars qui s'est fait remarquer au fil du temps, par ses qualités d'organisateur, plus que pour ses qualités, si tu veux, idéologiques ou purement politiques. C'est pas un grand penseur.
C'est pas un grand communicateur non plus.
C'est pas un grand communicateur. On dit qu'il est un peu paresseux. Peut-être qu'il fait pas. C'est pas le gars qui va finir de travailler à 10h30, 11h le soir. Là. Il paraît qu'il est pas tout le temps là. Puis là, il s'est engagé à faire une tournée des régions une fois élu. Je pense que c'était la bonne chose. Pas trop pressé de se faire élire. Mais, tu sais, organisateur, c'est bon pour accéder à la chefferie d'un parti. Mais les grandes idées économiques sur la souveraineté, on ne sait pas trop comment il se situe. Je comprends qu'il est contre, mais c'est quoi son argumentaire? On ne le connaît pas vraiment. On n'a pas eu vraiment de réaction par rapport à la pièce de PSPP et puis le livre bleu de la souveraineté jusqu'à maintenant,
ouais.
Sauf de dire le Québec veut... Les péquistes veulent tuer le Québec, puis les campagnes de peur, mais on n'a presque rien de sa part. On n'a pas grand-chose non plus sur les questions d'identité, les questions de langue. C'est flou. Puis lors de la campagne à chefferie du Parti libéral avec les autres, même M. Méliard, il n'y avait pas grand-chose. On n'a pas eu de grosses idées. On a un peu comme ce qu'a mené M. Carney à la chefferie du Parti libéral du Canada. On a eu des campagnes à chefferie puis des débats relativement ternes. On n'a pas beaucoup d'informations. On n'a pas une grosse plateforme politique. Et M. Rodriguez n'est pas associé à des changements importants ou à des orientations importantes au plan politique, au plan économique au Québec. Alors, je sais pas là, je sais pas comment il va être capable de rallier tout son caucus puis son membership à sa cause et à sa personnalité. Ça demeure hautement improbable. Je sais pas ce qui va arriver, mais j'ai l'impression qu'il y a encore lui qui pensait avoir reconstruit son parti puis avoir fait l'unité autour de lui. Là, il va s'apercevoir qu'il va y avoir des cracks pas mal là. Mais tu vois, tu parles de House of Cards puis les grandes séries américaines. Et canadienne anglaise, c'est très bien, mais nous, on est chanceux au Québec parce qu'on a ça en direct. On a ça en télé-réalité, Yannick. On est bien plus chanceux que les Américains qui sont obligés de référer à des films ou à des séries télévisées.
Ouais, mais je peux vous dire que les talents d'orateur de Pablo Rodriguez n'ont rien à voir avec les vrais talents de l'acteur principal dans House of Cards. Je veux dire, on est à des années-lumière. Là. C'est assez particulier. Maître Bellemare, j'ai le goût de vous parler d'un événement qui est arrivé dans le secteur de Charlebourg à Québec. Un événement complètement hallucinant où, dans un logement, il y a un corps qui est découvert. Bon, les policiers font le travail qu'ils doivent faire. Par la suite, un employé d'Harmonia, qui est une entreprise dans le domaine du funéraire, semble vouloir venir chercher le corps. On nous dit dans l'histoire qu'ils étaient deux, mais sur la vidéo qui a été mise en ligne par mon ancien collègue Stéphane sur les réseaux sociaux, on voit clairement que l'employé d'Harmonia a un sac mortuaire dans lequel il y a le défunt et le traîne au sol, Maître Bellemare, pendant à peu près 15 à 20 secondes. Puis Stéphane, mon ex-collègue avec qui j'ai travaillé, a été aussi intelligent que quand j'étais avec. Il s'est dit, si quelqu'un voit ça, ça va être triste sur un méchant temps. Donc, il a enlevé le bout où l'employé d'Harmonia, qui allait porter le corps à la morgue, faisait descendre le corps par les escaliers, puis on entendait la tête frapper sur les marches, boum, 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 boum. Comment ça peut arriver, ça, en 2025, Maître Bellemare? Puis Harmonia, vas-tu s'en sortir avec cette histoire-là? Parce que j'imagine que, bon, ils sont pas à 99% dans le tort. Là. L'employé a clairement manqué de jugement. Mais s'il a manqué de jugement cette fois-là, combien de fois qu'il a manqué de jugement avant?
Ah, c'est difficile à dire, hein? Mais écoute, on va souvent au restaurant, hein, puis on sait pas trop ce qui se passe dans la cuisine. Hein. Mais les gens qui ont travaillé dans la cuisine, je pense que c'est ton cas. Tu as déjà travaillé dans la cuisine, dans un restaurant, mais moi, j'ai des amis proches qui ont travaillé dans la cuisine puis qui me racontent des histoires. Puis il n'y a personne qui a travaillé dans la cuisine, dans un restaurant, qui n'a pas des histoires à raconter, qui nous montre que derrière les murs de la cuisine, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais il y a souvent des histoires savoureuses, là, t'sais, des choses. On ne mange pas nécessairement ce qu'on pense qu'on mange tout le temps. Les questions mortuaires, qu'est-ce qui se passe dans un salon funéraire? Moi, j'ai visité une fois, j'avais un ami au Saguenay qui avait un salon funéraire, plusieurs salons funéraires, puis qui m'a à un moment donné invité à voir ça. Je n'avais jamais vu ça. Ben, j'étais déjà rentré dans un salon funéraire, ben, si tu veux, dans la section officielle, là, où tu vois le cercueil, le mort dans le cercueil, puis là, tout le monde a de la peine, puis le crucifix, puis les chaises, puis la famille à qui on dit mes sympathies, mes sympathies, mes sympathies. Mais je n'étais jamais allé derrière le décor. Derrière le décor, ben, il y a toute une salle pour embaumer. Il y a des corps qui sont dans des espèces de frigos, puis des morts qui sont là. Puis, qu'est-ce que je te dis? La vie, après la vie, il y a la mort. Hein? Puis, il y a des morts, ils existent encore en attendant qu'on en dispose. Mais là, on a vu ça officiellement. Mais ce qui se passe derrière un salon funéraire ou dans une morgue, on ne sait pas trop. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pas tout le temps. On n'a pas tout le temps le respect auquel on peut s'attendre. On s'imagine que les corps sont traités avec énormément de respect, quasiment comme pour des êtres vivants.
Ben, j'ose croire qu'en majorité, c'est ça, Maître Bellemare. Je ne peux pas croire que des employés épais comme ça, comme on a vu dans l'actualité la semaine dernière, je ne peux pas croire qu'il y en a une trollée dans un salon funéraire. Je parlais vendredi matin avec la directrice générale de l'Ordre des thanatologues du Québec, présidente directrice générale. Puis elle me disait, tu sais, jamais on accepterait qu'on traiterait une dépouille de cette façon-là. Tu sais. Puis je vais vous dire franchement que quand elle me dit ça, ça me rassurait, contrairement à ce que vous me dites ce soir.
Je ne sais pas.
Vous avez gagné, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir jamais.
C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec un corps? Comment on l'envoie dans le fourneau? Comment on nous a raconté déjà que les cendres qu'on remettait à la famille, c'était pas toujours les cendres du défunt. Des fois, il y a un peu de mélange. Hein. Si tu envoies 3-4 corps dans la même journée, peut-être que les cendres... Comment tu fais pour savoir que c'est la cendre de mon oncle plutôt que la cendre du voisin dans le compartiment d'à côté? Écoute, moi, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on idéalise beaucoup de choses et qu'on pense que tout est parfait et tout est correct. Mais
avant que je vous parle...
Embaumer un corps, là, ça doit... Faut brasser un peu, j'imagine, là, puis y arranger... Il a rangé toute la figure, puis surtout qu'il s'y est exposé.
Avant que je vous parle, ça allait bien. Ouais. Avant que je vous parle ce soir, c'est tout allait bien dans ma vie.
Ben moi, j'ai l'impression qu'il faut. C'est quand même un corps, des os, de la peau, puis il faut. Mais là, ça excuse pas le fait qu'on voit le monsieur se promener avec le sac, puis le cadavre dedans, puis pouc, 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 à chaque fois que la tête frappe les marches, c'est vraiment odieux. Mais moi, j'ai déjà eu une cause à un moment donné. Où j'avais représenté des parents parce qu'on avait jeté un fœtus. Ça s'est passé au Nouveau-Brunswick. La famille avait déjà 3 enfants et la mère est enceinte du 4e enfant, un bébé, enceinte de quelques mois. Et donc, on attendait le bébé, le 4e. On avait aménagé une chambre, c'était dans le bas du fleuve, avec une peinture de la bonne couleur, puis je me souviens pas si c'était un gars ou une fille, je pense que c'était un petit garçon, la peinture de la bonne couleur, puis on avait acheté une bassinette, puis on avait acheté des jouets, puis on avait même trouvé un nom à l'enfant. Malheureusement, madame a fait une fausse couche, donc elle a perdu l'enfant, mais c'est un avortement prématuré, si tu veux, alors l'enfant avait quand même une certaine forme. Il y avait quand même un certain nombre de mois, puis il avait prévu un enterrement pour cet enfant-là, digne d'un enfant qu'on aime et qu'on a désiré, qu'on souhaitait voir arriver, mais qui est finalement jamais arrivé vivant. Alors, et malheureusement, le concierge de l'hôpital a pensé que c'était une espèce de prélèvement, je ne sais pas trop quoi, un appendicite ou quoi que ce soit, puis il a finalement détruit le bébé. Alors, quand le croque-mort s'est présenté à l'hôpital d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick, pour aller chercher le bébé pour procéder à tout ce qu'il faut pour l'enterrement, ben il n'y avait plus de corps. Alors, on a poursuivi l'hôpital je me suis occupé de ce dossier-là, on a poursuivi l'hôpital au Nouveau-Brunswick, on a obtenu une compensation hors cours pour chacun des enfants, les trois qui restaient, et chacun des parents. C'était pas un gros montant, mais c'était plutôt symbolique, mais l'hôpital a quand même accepté de verser une somme d'argent pour éviter un procès. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tout ce monde-là, là, de toute la question des morts, puis des enterrements, puis des processus entourant le décès, il y a toute une industrie, mais qui travaille là-dedans, puis comment on procède, on ne le sait pas. C'est très secret parce que toi puis moi, on n'ira pas demain matin se présenter à la morgue pour dire, hey, ça me tente de voir comment ça marche, à moins d'avoir un contact privilégié, un pathologiste, un médecin, un infirmier qui va t'amener visiter ça. Mais en principe, c'est pas acceptable. C'est dans le milieu hospitalier ou dans des salons funéraires. Ils ont des codes d'éthique qui fait que tu peux pas rentrer là comme dans un moulin, mais. J'ai l'impression que là, on a eu un exemple un peu violent là, de comment on disposait d'un corps, comment on transportait un corps, puis c'est pas acceptable, mais j'ai l'impression qu'il doit s'en passer des vertes puis des pas mûres. Une belle série télévisée pour Netflix éventuellement, Yannick, là, tu pourrais proposer ça. House of Cards, à côté de ça, c'est peut-être rien,
Non, ben, ces
là.
images-là sont juste hallucinantes. Puis est-ce que c'était la première fois que cet employé faisait ça? Je sais pas. Je présume que c'était pas la première fois, puis c'était un employé qui était juste incompétent, comme on retrouve dans toutes les dans toutes les entreprises. La bonne nouvelle, c'est que l'employé a été suspendu, donc il aura plus accès à des corps pour ce qui est des prochaines heures. Probablement en fin de semaine, il n'a pas touché à des corps non plus, mais c'est un non-respect. Je vous pose une question comme ça, là. Tu sais, ce corps-là, ce défunt-là, cette personne décédée, il avait probablement une famille.
Oui.
La famille qui a vu cette vidéo-là, là,
Oui.
ils s'en remettront pas de sitôt, là.
Oui, une
C'est un
mise en
choc
demeure, un
post-traumatique.
dommage. Oui, on peut alléguer un dommage, on peut alléguer.
C'est le fils de quelqu'un, c'est le conjoint de quelqu'un, c'est le père de peut-être quelqu'un, c'est
Bien
le...
sûr, tout à fait, que c'est comme on peut poursuivre après un décès pour une faute qui a été commise, qui a entraîné le décès. On peut poursuivre pour un mauvais traitement au niveau du cadavre. On peut, bien sûr, il y a possibilité, il y a des recours pour ça parce que tout ce qui entoure la peine et la tristesse et l'anxiété, le désarroi qui est en relation avec une faute commise dans le cadre de la mauvaise disposition ou mauvaise manipulation d'un cadavre peut avoir un impact, bien sûr. Et ça peut avoir un impact. Et si tu peux le prouver, ben tu peux avoir droit à des indemnités qui seraient certainement pas énormes, mais je pense qu'il y a de la place dans notre système judiciaire pour obtenir une compensation dans ce contexte-là. Mais encore faut-il que tu prouves, puis c'est toujours la même chose dans toutes les causes de responsabilité civile, tu dois prouver un dommage, tu dois prouver une faute. Et tu dois prouver qu'il y a un lien entre le dommage et la faute. Alors, le dommage, c'est quoi? Là, il faut que tu aies des rapports psychologiques qui vont prouver que tu as eu des problèmes, tu as eu de la peine, que tu as consulté, tu as peut-être manqué une couple de semaines de travail en relation avec ça, tu as une séquelle psychologique associée à ça parce que tu penses tout le temps à ça dans ta tête. Donc, il faut prouver qu'il y a une faute. On s'entend que ce serait de nature strictement psychiatrique, il n'y a pas de dommage physique autour de ça. Donc, il faut prouver qu'il y a une faute, hein, ce qui est quand même pas évident au départ. Ensuite de ça, il faut prouver que c'est en relation avec les images que tu as vues ou ce que tu as entendu dire par rapport au fait qu'on ait manipulé ton pauvre père décédé de façon indécente. Et il faut prouver que c'est en relation entre les deux. Fait que c'est toujours facile à dire, mais avant d'obtenir un résultat devant un tribunal judiciaire favorable au niveau d'une compensation quelconque, il y a tout un cheminement.
Maître Bellemare, autre dossier sur lequel je voulais revenir avec vous. La dernière fois que vous et moi, on s'est parlé en ondes, c'était jeudi matin. Donc, il y a déjà quelques jours qui ont passé. La dernière fois qu'on avait fait un marceau soir, c'était lundi dernier. On avait parlé de ce sujet-là jeudi matin. Puis ça a tellement fait réagir, Maître Bellemare. Puis je pense pas que ça a fait réagir de façon très positive. Mais on revient sur cette histoire. un jeune de la communauté à Manawan qui a tué un adolescent et a blessé 8 autres passagers. Le jeune de Manawan, c'est un autochtone. Il conduisait complètement sous sa camionnette et on parle d'une camionnette là, qui tombait en morceaux, soit dit en passant. Je pourrais vous la décrire par la suite, toutes les problématiques qu'il y avait sur cette camionnette-là. Mais on parle d'un jeune homme irresponsable qui a tué quelqu'un et on a mis en place autour de lui, puis ça c'est de commun accord avec la couronne et la défense ainsi que le système de justice qu'on a actuellement, un cercle de 30 personnes, ça s'appelle un cercle de sentence et ça vise à déterminer quelle serait la peine appropriée à imposer à ce jeune homme-là de 23 ans, Dylan Dubé, qui était déclaré coupable de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort et causant des lésions. Et le juge a pris connaissance des propositions du cercle de sentence. Oh, je ne sais même pas c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire un cercle de sentence, mais a décidé que le jeune homme ne méritait pas la prison et que c'était plus facile pour lui d'avoir une sentence Netflix dans sa communauté. Ça a tellement fait réagir, ça, Maître Bellemare. Est-ce que vous avez l'impression que ça va faire jurisprudence?
Bien, c'est sûr que c'est un jugement qui va être utilisé par les avocats de la défense qui représentent des Autochtones accusés de crimes pour obtenir une certaine clémence de la part du tribunal ou en tout cas considérer le passé autochtone comme étant une circonstance atténuante, très certainement. Mais moi, ce qui me choque, c'est les peines de la communauté pour des crimes graves comme ça, là. T'sais, on sait que depuis le projet de loi qui est devenu la loi C-5, un cadeau de Justin Trudeau puis du ministre David Lametti à l'époque, qui était ministre de la Justice, à tous les criminels du Canada, qui permettait d'élargir les peines dans la communauté. On appelle ça communément des peines Netflix, des gens qui sont pas en pénitencier ni en prison, mais qui sont plutôt à la maison, des peines à la maison, avec une certaine surveillance dont on ne connaît pas toujours la rigueur. On me dit qu'il n'y a pas beaucoup de surveillance pour s'assurer que les gens sont vraiment à la maison pendant tout ce temps-là. Mais cet homme-là, qui est un Autochtone, qui a, par son état d'ébriété, causé la mort d'un individu, s'en tire avec une peine à la maison de moins de 2 ans. Moi, j'en reviens pas, mais ça, c'est... Évidemment, la juge décide d'aller dans cette direction-là parce que le code criminel lui permet de le faire. Alors, faudrait à la source modifier le code criminel pour prévoir, et ça, c'est ce que les conservateurs de Pierre Poilievre réclament depuis des années, notamment, pour prévoir que dans les cas, notamment d'agression sexuelle et d'alcool au volant causant des blessures ou causant la mort, qu'il n'y ait pas de peine dans la communauté, que ces gens-là s'en aillent en prison. Et c'est d'ailleurs ce que la Couronne demandait dans ce dossier-ci, qu'il y ait 30 mois de pénitencier. Parce que plus que 24 mois, tu t'en vas dans un pénitencier fédéral, puis en bas de 24 mois, tu t'en vas dans une prison provinciale. Alors, il n'est pas trop tard pour la Couronne d'aller en appel, même si le code criminel permet des peines dans la communauté, ça ne veut pas dire que c'est indiqué dans ce cas-ci. Et je souhaite, évidemment, que le DPCP, donc le directeur des poursuites criminelles et pénales, qui est la seule autorité qui permet d'aller en cour d'appel et de contester ce jugement-là, le fasse. Parce que le DPCP au Québec, c'est pas le plus rigoureux au Canada, là. On sait qu'en Ontario puis en Alberta, notamment, la Couronne, le DPCP est beaucoup plus rigoureux et conteste en appel beaucoup de ce type de sentence-là. Au Québec, on est plus mou, on est plus ouvert, on est plus favorable aux criminels, malheureusement. Mais en plus de changer le code criminel, ce qui est une perspective à long terme, à mon avis, qui doit être éventuellement faite pour empêcher ce type de peine-là dans la communauté, on devrait, je pense, pour l'instant en tout cas, contester ce jugement-là à cour d'appel pour demander à cour d'appel d'imposer une peine d'emprisonnement ferme compte tenu de la gravité du crime et plus que 2 ans. Là, la Couronne demandait 30 mois, ce qui est quand même pas exagéré. Et je pense que si la Couronne l'a demandé, c'est qu'il y a une analyse qui a été faite. Il y a de la jurisprudence, il y a des jugements de cour qui permettent d'en arriver à cette conclusion-là. Puis, je ne vois pas en quoi le passé autochtone, la situation autochtone de cet individu-là devrait jouer un rôle quelconque. T'es en état d'ébriété, que tu sois autochtone, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois vert, que tu sois rouge, que tu sois de religion musulmane, orthodoxe, catholique, protestante, que tu sois un homme, une femme, ça n'a aucune espèce d'importance. T'as commis un crime, Tu as conduit un véhicule, puis il est chanceux, ce gars-là, parce qu'il conduisait un F-150, je pense. Puis je pense qu'il y avait 9 ou 10 personnes qui étaient transportées. Alors, s'il avait été un peu moins chanceux, il y en aurait eu 10,
Il
là.
était 5 dans le camion, puis il y en avait 4 dans la boîte. Le véhicule, les roues n'étaient pas toutes de la même grosseur, n'étaient pas toutes de la même usure. Aucun freinage était possible sur une des roues du véhicule. Les câbles de frein étaient rouillés. Le frein arrière n'était pas installé. La suspension avait plusieurs défectuosités. On a affaire à un jeune homme qui était totalement, mais totalement irresponsable. Est-ce qu'il en était à sa première cuite? On va se le dire, là. Il n'en était pas à sa première cuite. Quand on parle du système de justice canadien, on s'attend à ce que, il y a que la personne qui est déclarée coupable ait une sentence juste et équitable. Est-ce que du côté de la famille de la victime, est-ce que eux ont l'impression que la sentence a été juste et équitable? Parce que de ce que je comprends, de ce qu'on peut lire dans l'article de mercredi dernier dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, le père et la mère de la victime étaient opposés totalement à ce que ce jeune homme-là ait une sentence Netflix à la maison. Donc, eux autres, ils l'ont pas eu, la sentence juste et équitable.
Non, c'est ça. Eux autres, c'est pour la vie, hein? Et les parents sont catastrophés, je les comprends. Moi, je représente ici, depuis 46 ans, des milliers de victimes d'actes criminels, de toutes sortes dans toutes sortes de contextes. Puis je peux te dire que pour les victimes d'actes criminels, de façon générale, elles sont insatisfaites des jugements de cour rendus en matière criminelle. Elles trouvent que les peines ne sont pas assez sévères. Elles trouvent que les libérations conditionnelles sont trop faciles. Elle trouve que les criminels bénéficient de beaucoup trop de moyens de défense pour obtenir ou bien un acquittement ou bien une libération, surtout depuis 2016 avec l'arrêt Jordan qu'on connaît bien, qui est un autre élément, qui permet, un autre argument qui permet d'obtenir non pas un acquittement, mais une libération en matière criminelle. Lorsqu'il y a condamnation, les peines sont souvent insatisfaisantes. Donc, non, les victimes ne sont pas satisfaites. Et non, les victimes ne croient pas que justice est rendue dans ce genre de cas-là. Et je pense que M. Trudeau a ajouté un autre argument à l'arsenal de défense en matière criminelle en permettant qu'on tienne compte du passé autochtone. Dans ce cas-ci, la juge revient sur le passé autochtone et estime que ça doit avoir un impact. Bon, selon la dépêche de la presse de la semaine dernière, on dit que pendant l'audience, la juge s'est montrée très émotive en parlant de génocide culturel et des pensionnats pour autochtones. OK, je comprends, mais est-ce que ça veut dire que du simple fait qu'il a existé au Canada ce qu'on appelle de plus en plus un génocide culturel avec les pensionnats pour autochtones, est-ce que ça a un impact automatique sur la peine? Ou est-ce que dans ce cas-ci, je ne le sais pas, là, je n'ai pas lu le jugement, mais est-ce que on a fait une preuve devant la juge du fait que cet individu-là, qui est quand même assez jeune, aurait été porteur de séquelles psychiatriques ou psychologiques en lien avec les pensionnats autochtones? Je ne sais pas, je ne pense pas que ça a été mis en preuve de façon spécifique. Est-ce que du simple fait que généralement, il y a eu des antécédents culturels négatifs au Canada par rapport aux autochtones, ça donne automatiquement un argument aux accusés pour obtenir des peines plus clémentes. Ça, je marche pas là-dedans, puis je peux pas comprendre qu'on puisse altérer, si tu veux, la peine de façon significative du simple fait que dans ta communauté, dans ta nation et de façon générale dans le monde autochtone, il y a eu des malheurs au cours des 2 derniers siècles. Moi, je peux pas comprendre qu'on puisse mettre ça dans la balance, puis banaliser d'autant le crime atroce qui a été commis, alcool au volant causant la mort. C'est quand même pas un vol à l'étalage, là.
Mais c'est parce que tu sais, ça finira plus, là. Dans 300 ans, il y a encore un jeune homme de 17 ans ou de 18 ans, pardon, qui va faire le même genre de conneries. Puis on va se dire, ah, ben c'est parce qu'en 1609, là, les Amérindiens se sont fait ostraciser par les premiers arrivants, par les premiers colons. Là, t'as peu, là. Ça ça va durer pendant combien de centaines d'années encore, ces histoires-là? T'sais? Moi, je pense qu'au Canada, on devrait être considéré au sens de la justice comme tous égaux. Mais visiblement, c'est pas le cas pour les personnes autochtones. C'est pas le cas pour les personnes racisées. Souvenez-vous, la décision qui avait été prise, on voyait qu'il y avait une trop grande représentativité des Autochtones et des personnes noires en prison. Donc là, Justin Trudeau voulait soulager sa conscience en disant « Ah, les statistiques, j'aime pas ça. » Fait qu'on va permettre aux gens qui sont issus des communautés autochtones ou encore les Noirs à purger des sentences Netflix à la maison. Mais le juge, il peut pas faire de différence entre un noir, un jaune ou un bleu. Fait qu'il va dire, même aux Blancs, « Quand t'as agressé sexuellement quelqu'un, on va te laisser aller dans ta sentence Netflix. » Je veux dire, ça arrête où, ça, les histoires là, de gens qui ont été ostracisés quand ils étaient jeunes, tu sais? Sur 100 personnes qui vont avoir été battues dans leur jeunesse, il y en a 2% qui vont faire des conneries, puis on va encore considérer ça comme des facteurs atténuants. Conrad Sioui, qui est un homme extrêmement respecté dans la région de Québec, Conrad Sioui a dit, dans Le Soleil, il y a de ça plusieurs années, il a fait un papier dans lequel il disait « Faites attention, les nouvelles générations, quand vous prétendez savoir ce que nous, on a vécu avant. Vous n'avez rien vécu tant que ça. » Puis ça venait d'une personnalité autochtone qui est un leader dans sa communauté en disant « Calmez-vous, là, puis arrêtez de dire que vous avez été ostracisé. Vos générations ne l'ont pas autant été que nous autres, on l'a été dans le temps. »
Oui, puis ce genre de considération-là qui permet d'obtenir des peines plus clémentes pour les criminels autochtones peut avoir un effet pervers aussi, en ce sens que ça alimente les préjugés. Hein. Les gens se disent « Ah, on sait bien, les Autochtones... Ils obtiennent des acquittements plus facilement, ils obtiennent des peines plus clémentes, ils obtiennent des peines à la maison du fait qu'ils sont autochtones, ils payent pas d'impôts, etc. » Donc, il y a un certain backlash aussi dans la population, il faut faire attention à ça. Alors, à vouloir considérer le passé autochtone, les pensionnats et tous ces drames-là qui sont absolument épouvantables, j'en conviens, à transporter ça d'un cours de justice pour obtenir des peines plus clémentes dans des dossiers individualisés, ça peut avoir un effet pervers aussi, qui peut avoir un effet contraire à l'objectif qu'on poursuit, c'est-à-dire de favoriser l'intégration des Autochtones, la reconnaissance de leur passé dramatique et tout ce qu'on peut souhaiter comme amélioration de leurs conditions de vie. Mais tu sais, quand tu dis là que ce monsieur-là, Dylan Dubé, qui a bénéficié d'une peine dans la communauté, qui conduisait à 0,10 alcool, et ça, plusieurs heures avant l'accident. Après l'accident, plutôt, la juge reconnaît qu'il y avait probablement un taux d'alcoolémie beaucoup plus élevé au moment où l'événement est survenu. La camionnette qu'il conduisait était chargée, il n'avait pas dormi de la nuit. Il y avait 4 personnes dans la caisse arrière du véhicule, ce qui est parfaitement illégal en plus. Ce n'est pas des marchandises, ces individus. Donc, c'était le niveau de criminalité.
Le duo Gravel Marceau est de retour maintenant à 7h45 pour traiter des gros dossiers du jour. Votre nouveau rendez-vous incontournable du matin.
Les conséquences aussi.
J'ai réservé l'hôtel pour le tournoi du plus jeune.
C'est moi qui monte au tournoi, mais c'est pas moi qui réserve.
Fait qu'elle me dit, tu me dois 500$. Pardon, 5$.
Le penthouse. Ben si, au début de l'année, les parents ont des niaiseux aussi. Voulez-vous des tournois? Oui, oui, oui. En voulez-vous un troisième? Oui, oui, oui. Puis là, les factures rentrent, tu fais « Oh! »
À l'église Saint-Roch, une expérience immersive grandiose et les moments de facteur.
Lumière spectaculaire, projection à couper le souffle,
musique enveloppante.
L'architecture se développe devant vos yeux pour créer un tout autre univers.
Dès le 5 décembre, redécouvrez Québec sous un nouveau jour grâce à cette œuvre qui fait déjà vibrer le monde entier. Réservez vos billets au auraeglisesaintroch.com. Boulevard 102.1 et Aura, fiers de s'associer pour vous faire vivre
votre moment magique de l'hiver.
Débutez la saison des raclettes avec le célèbre fromage Le Fin Renard de Fromagerie Bergeron en format tranchette. Ensemble de deux saveurs, originales et au poivre, en vente chez Maxi et IGA.
Tu rêves d'une carrière en communication? Le Collège Radio-Télévision de Québec a la formation pour toi. En plus de l'AEC en animation radiophonique et web, le CRTQ offre maintenant une formation en création de balado, ainsi que deux nouveaux decks axés sur les médias et les communications. Inscris-toi au crtq.ca.
Donner des cadeaux pendant les fêtes, c'est compliqué. Ton oncle veut des bas, ta nièce veut de l'argent, ton voisin veut juste que tu lui redonnes sa petite souffleuse.
Peut-être à la fin de l'hiver.
Mais là, tu reçois un 12 pouces classique gratuit quand t'achètes 50$ en carte cadeau Subway.
J'aime ça. Un 12 pouces classique gratuit quand j'achète 50$ en carte cadeau Subway?
Oui! C'est un cadeau qui fait l'unanimité!
Ça, c'est un miracle des fêtes!
Puis ça goûte bien meilleur que des bas.
Ça, c'est vrai.
Dans les restaurants Subway participants, limite de 4, se termine le 31 décembre.
C'est le vendredi fou chez Sale. Profitez de rabais allant jusqu'à 50% sur une vaste sélection d'articles de plein air de vos marques préférées. Économisez sur The North Face, Columbia, Merrell, Osprey, Black Diamond et plus pour un temps limité. Sale, votre destination plein air 100% québécoise.
Envie de vivre des expériences qui sortent de l'ordinaire? Découvrez les extravagances carnavalesques du Carnaval de Québec en collaboration avec Loto-Québec. Amateurs de sensations fortes, tentez la descente en rappel sur le Fairmont, le Château Frontenac. Plutôt du type party, la nuit blanche carnavalesque présentée par Pop Underwear vous attend. Jouez aussi au Laser Game Evolution à la Citadelle, propulsé par Weekend 91.9. Et nouvelle expérience, vivez l'ambiance du Sud à la façon du Nord avec Caillou Carnaval au Spa des Neiges. Réservé au carnaval.qc.ca. Le jeudi 27 novembre, découvrez les condos locatifs L'Allier à Lévis lors d'un 5 à 7 convivial. Visitez nos unités et notre lounge, un verre de vin à la main. L'occasion parfaite de découvrir un complexe d'exception au cœur d'Humano. Consultez votreallier.com pour les détails.
Douleurs menstruelles, fatigue, bouffée de chaleur, inquiétude sur ta fertilité ou ta ménopause? À la clinique Ouvel, clinique spécialisée en santé des femmes, on t'accompagne de l'adolescence à la ménopause. On écoute, on explique, on prescrit et on prend soin. Symptômes gynécologiques, fertilité, périménopause, hormonothérapie et ménopause. Ici, on prend le temps avec une approche humaine. En clinique ou en téléconsultation dans nos quatre points de service, rendez-vous simple et rapide sur cliniqueauvel.ca. À la librairie Maison Anglaise, nous offrons les seuls voyages sans bagages, sans stress et sans décalage horaire. Vivez l'aventure du Department Q avec Jessie Adler-Olson. Découvrez les bases de l'alchimie avec Senlin Yu ou faites un ami de votre cerveau avec Rachel Barr. Votre imagination est la seule limite. Achetez local et voyagez dans le monde entier. Pour votre prochain voyage, des milliers de titres et versions audio, anglais et espagnol, vous attendent. La Maison Anglaise à la Place de la Cité ou lamaisonanglaise.com.
On dit qu'on a trouvé le bon véhicule quand on sourit dès qu'on s'assoit dedans. Le Volkswagen Tiguan crée exactement ce sentiment-là. Confort, espace, technologie et un je ne sais quoi qui donne envie de prolonger la route. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous pourriez l'obtenir pour seulement $122,31 par semaine, en location 51 mois, avec 16 000 km par année. Passez chez Volkswagen Saint-Nicolas. Volkswagen Scénic, quand on dit offre exceptionnelle, on le pense pour vrai.
Profitez de la vente du vendredi fou chez Gréchy SCAF. Jusqu'au 7 décembre, économisez minimalement 30% et jusqu'à 80% sur les montures et les solaires à l'achat de la paire complète. Oui, jusqu'à 80%. Chantal Gravel, opticienne, détaillez rendez-vous sur gresh-scarf.com.
Grâce à nos petits bouffeurs de prix IGA, profitez des prix vérifiés garantis ou recevez la différence en points Saint Plus. Jusqu'au 26 novembre, le yogourt probiotique Activia est à $3,33 pour 650 grammes. IGA, vive la paix d'esprit. Valable dans les magasins participants. Détails à IGA.net.
Plongez dans 888casino.net. Conçu pour jouir des machines à sous primés. Pour découvrir un monde de plaisir. C'est fait pour divertir. Pour se délecter de la roulette. Super!
C'est juste pour jouer.
Ouais, ça marche! 888casino.net. Fait pour jouer.
19 plus. Jeux gratuits uniquement. Jouer de façon responsable.
Matériaux des Timber Mart est à votre service pour vos petits et grands projets de construction depuis 1946. Tout le mois de décembre, nous aurons des promos hebdomadaires avec des quantités limitées. Restez à l'affût pour profiter des meilleurs rabais. Livraison flexible et rapide. Matériauxaudet.ca.
À la souche Tonam, on prend le temps d'être ensemble. Une bière brassée sur place, un bon repas et une soirée sans pression. C'est pas un plan parfait, ça? La Souche, c'est l'endroit idéal pour rassembler ta gang. La Souche Tonam, ici, on savoure les moments autant que la bière.
Tu rêves d'une carrière en communication? Le Collège Radio-Télévision de Québec a la formation pour toi. En plus de l'AEC en animation radiophonique et web, le CRTQ offre maintenant une formation en création de balado, ainsi que deux nouveaux decks axés sur les médias et les communications. Inscris-toi au crtq.ca.
T'es autant intéressé par ce qui se passe à Québec que par ce qu'il y a de nouveau dans le monde du rock? Tes sujets, ton rock, ta radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Maître Marc Bellemare de chez bellemareavocat.ca passe la soirée avec nous comme à chaque lundi. Maître Bellemare, il nous restait un seul sujet à discuter. C'est le sujet des fameux vices cachés.
Oui, c'est un jugement très important qui vient d'être publié par la Cour d'appel dans l'affaire Meyer contre Pichette. C'est une histoire de succession. Et ce qui est arrivé, c'est que la personne avait acheté une maison dans laquelle il y avait des vices cachés, des problèmes de condensation, etc. Et l'acheteur, devant la situation, a fait défaut d'aviser le vendeur rapidement de l'existence de ces vices cachés-là. Il n'a pas transmis un avis de dénonciation assez rapide. Il n'a pas informé de l'existence des vices de manière suffisante et il l'a avisé trop tard. Alors, il a procédé à des travaux rapidement, de sorte que le vendeur a été mis devant le fait accompli et la Cour d'appel a donné raison dans ce cas-ci au vendeur en disant que l'avis qu'on lui avait donné était insuffisant, qu'on l'avait avisé trop tard, qu'il n'avait pas pu lui-même faire procéder à un examen des lieux par des experts appropriés et ça a eu un impact sur la poursuite. Alors, ce que je veux vous dire simplement ici, c'est que en vertu du Code civil, il y a une obligation de dénoncer le vice très rapidement. Si jamais vous êtes victime d'un vice caché, vous devez rapidement aviser le vendeur de l'existence du vice pour lui permettre d'examiner les lieux, de vérifier la situation, d'apporter des propositions de correctifs. Et vous ne pouvez pas commencer à faire des travaux d'envergure sans l'avoir avisé, puis lui avoir permis au moins d'examiner les lieux et de faire des propositions. Alors, c'est simplement ce que la Cour d'appel vient de décider dans un jugement très important qui va faire jurisprudence et qui impose, si vous voulez, aux acheteurs victimes de vices cachés des obligations de dénonciation rapide de façon à ce que le vendeur puisse trouver des solutions ou en tout cas à minimalement examiner les lieux.
Oui, puis je ne sais pas si vous avez vu des récentes condamnations au niveau de l'OASIC. Là, c'est un organisme qui régit l'immobilier pour ce qui est des courtiers immobiliers. Puis eux autres aussi, ça a été resserré. Là, parce que des fois, ils omettent de mentionner certains renseignements. Les clients achètent, puis ils se ramassent avec les problématiques par la suite. Là, il y en a certains qui ont perdu leur droit de pratique pendant quelques mois et d'autres aussi qui ont eu des amendes. Fait que ça commence à être assez sévère. Là. Quand il y a un vice caché, on ne niaise pas avec ça. Maître Bellemare, j'avais eu aussi une infestation de guêpes, moi, dans mon vide sanitaire. Puis okay. J'avais invité chez nous les gens d'Abba Extermination pour enlever ce nid de guêpes-là. Et la personne a vu que j'étais en train de vendre ma maison. Il m'a donné un papier pour dire « Hey, c'est dénonciation obligatoire. Tu dois absolument dire que tu as eu une infestation de guêpes dans le vide sanitaire. Puis voilà, je te donne un papier comme quoi j'atteste que j'ai fait le travail puis que le travail est garanti. » Fait que quand je vendais ma maison, quand les nouveaux acheteurs sont arrivés, les acheteurs possibles, bien entendu, j'ai donné ce papier-là, puis ça les a mis en confiance en disant « OK, ben tu vois, il y a déjà eu des problèmes, puis il me le mentionne avant même que j'achète sa maison. » Fait que ça avait été un plus. Toujours, toujours, toujours mentionner les petites problématiques qu'il y a sur notre maison parce que ça se peut que ça nous revienne d'en face.
Absolument. Puis un vice caché, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas détecter par une inspection adéquate de la maison. Et au moment où on constate l'existence d'un vice qu'on estime avoir été caché, il faut rapidement, sans délai, aviser le vendeur de l'existence du vice avec des photos si vous en avez, et ce, dans un délai raisonnable, en précisant quel est le vice qui a été porté à votre connaissance avant de faire des travaux.
Maître Bellemare, on invite les auditeurs qui ont des problématiques avec la SAAC, l'IVAC, la CNSST à aller faire un tour chez bellemareavocat.ca. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. On se reparle lundi prochain.
Parfait. Bonne semaine, tout le monde.
Bonne
Merci.
Semaine. Bye-bye.
Marceau, le soir.
Envie de vivre des expériences qui sortent de l'ordinaire? Découvrez les extravagances carnavalesques du Carnaval de Québec en collaboration avec Loto-Québec. Amateurs de sensations fortes, tentez la descente en rappel sur le Fairmount, le Château Frontenac. Plutôt du type party, la nuit blanche carnavalesque présentée par Pop Underwear vous attend. Jouez aussi au Laser Game Evolution à la Citadelle, propulsé par Weekend 91.9. Et nouvelle expérience, vivez l'ambiance du Sud à la façon du Nord avec Caillou Carnaval au Spa des Neiges. Réservé au carnaval.qc.ca.
Chez Sport Expert et Atmosphère, c'est parti pour le Vendredi fou. Profitez de 25% de rabais sur les nouveautés d'hiver Helly Hansen, Columbia, Merrell et The North Face. Détails en magasin, Sport Expert d'ici.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Wouhou, j'ai gagné!
Sentir le plaisir, Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus. Il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
Chez Pizza Passion, tout est fait maison. Pizza, frites, sauce à spaghetti.